Les contes ne sont pas faits.
Les contes ?
Pour endormir les enfants.
D'Albatros.
Mais pour réveiller les adultes.
Les contes d'Albatros.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Albatros et vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Rennes. Et tous les mardis midi, à l'heure où la sieste vient nous chatouiller les paupières, je viens vous livrer les récits, légendes et autres fables que j'ai pu glaner au fil de mes recherches, que j'ai pu glaner au fil de mes voyages. Nous commençons aujourd'hui une série d'émissions consacrées à l'argent. Et l'émission n'aura jamais aussi bien porté sa devise « Les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais pour réveiller les adultes ». Le conte peut parfois être subversif et dénoncer notre monde rempli d'argent, ou encore imaginer un monde où les transactions monétaires n'auraient pas lieu, où l'on vivrait sans argent. Dans cette série d'émissions, sobrement intitulée « Les bons contes font les bons amis », je vais vous livrer quelques-unes de ces réflexions, quelques-uns de ces contes que j'ai pu trouver. Et nous commençons tout de suite avec l'histoire de Nasreddin. Alors, ouvrez bien vos oreilles, car l'histoire va commencer. Il est content, Nasreddin, depuis le temps qu'il attendait ça. Depuis le temps qu'il le tannait, son banquier, pour avoir cet emprunt, enfin, il a réussi. La banque a dit oui, il va pouvoir avoir l'argent pour acheter sa maison. Il rentre chez lui en courant et annonce ça à sa femme. « Aïcha, Aïcha, le banquier a dit oui, le banquier est un homme bon. Quel gentilhomme, nous allons pouvoir avoir notre maison. » Aïcha est contente, bien sûr, elle esquisse un sourire. Et bientôt, les choses vont bon train. Ils achètent leur maison, ils font quelques travaux, ils vivent et commencent à rembourser l'emprunt. Malheureusement, Nasreddin se rend bien compte que quelque chose ne va pas. Il se tourne et se retourne dans son lit, il fait les comptes. Non, quelque chose ne va vraiment pas. Et à force de retourner ses histoires dans sa tête et de retourner son corps dans son lit, il finit par réveiller sa femme, Aïcha. « Mais enfin, Nasreddin, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu bouges dans le lit comme ça? Tu m'empêches de dormir ?»« Oh, c'est que, » dit Nasreddin, « j'ai fait les comptes et nous ne pourrons pas rembourser l'emprunt. J'ai retourné le problème dans tous les sens, nous ne gagnons pas assez d'argent. » Nous ne pourrons jamais rembourser l'emprunt que le banquier nous a fait. Je ne sais pas quoi faire, nous sommes bloqués, Aïcha. C'est donc ça qui t'embête, répond sa femme. Bien oui, nous ne pourrons pas rembourser l'argent, j'ai vraiment retourné le problème. Calme-toi, dit Aïcha. Si c'est uniquement ça qui t'embête, je vais m'occuper de ton problème. Aïcha se lève et se dirige vers la fenêtre. Elle ouvre la fenêtre ainsi que les volets, et observe un instant la rue endormie. Les étoiles illuminaient déjà le ciel, et il n'y avait qu'un chat qui passait dans la rue. Elle emplit ses poumons d'air et appela le banquier.
« Au banquier ! Au banquier, réveille-toi !»
Le village n'était pas très grand, et le banquier n'habitait qu'à quelques maisons de la leur.
« Banquier, réveille-toi, je t'ai dit !»
Avec tout ce boucan, le banquier finit par se lever, ouvrit sa fenêtre à son tour et pointa la tête hors de chez lui.
« Banquier, mon mari Nasreddin t'a emprunté de l'argent. Eh bien, il ne pourra pas te le rendre. Voilà, bonne nuit !»
Et Aïcha referme la fenêtre et retourne se coucher dans le lit, le sourire aux lèvres.
« Mais enfin, Aïcha, qu'est-ce que tu as fait ?» dit Nasreddin. « Tu es complètement folle !»«
Complètement folle ? Moi ?» dit Aïcha. « Eh bien, avant, tu avais un problème d'argent et maintenant ce problème, c'est ton banquier qui l'a. » Rendors-toi, Nasreddin. Jean le Foll, on ne sait pas vraiment s'il est fou, ou s'il est simplement bête, ou s'il le fait exprès, mais en tout cas, on l'appelle Jean le Foll, dans le doute. Au village, tout le monde connaît Jean le Foll. Tout le monde l'a déjà vu. Et tout le monde, enfin presque, a déjà fait au moins une fête chez lui. Jean le Foll, il est adepte des grandes réceptions, avec des cochons sur le feu, avec des bouteilles qui explosent et des ragoûts de légumes bien gras. Et ce soir-là, d'ailleurs, c'est une grande fête qui s'y tient, avec des cochons de lait, avec des bouteilles de champagne qu'on débouche. Et ça sent bon, les grillades emplissent l'air, et les gens chantent, dansent, rient, toute la grange de Jean le Foll est remplie. Mais il n'y a une personne qui n'est pas invitée, qui n'est jamais invitée et c'est le seigneur du lieu. Il habite dans son château, un peu plus haut sur la colline, tout seul. Et lui ne descend que très rarement au village. C'est lui qui perçoit l'argent, et c'est lui qui contrôle tout. Et il dicte les lois, d'une main de fer. Et ce soir-là, le seigneur dans son château, penché à la fenêtre, sent les odeurs portées par le vent, sent les odeurs de grillades, de ringots, et entend, portées par le vent également, les bruits des rires, le bruit du violon qui fait danser les femmes, le bruit des bouteilles qu'on débouche. Et le seigneur se met dans une colère noire. « Une fête ! Une fête ! » dit-il. « Et sans mon autorisation encore. Et l'argent, d'où vient-il ? D'où vient cette fête ? Je veux le savoir !» Et il s'énerve toute la nuit, n'en ferme pas l'œil, et au petit matin, envoie ses gardes au village pour enquêter. Les gardes ne sont pas commodes et posent quelques questions aux personnes bien placées, et les gens, assez vite, les dirigent vers la maison de Jean le Folle. Les gardes frappent à la porte.
« Jean le Folle, c'est toi ?»«
Oui, » répond Jean.
« Suis-nous, ordre du Seigneur. »
Jean le Folle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Il est saisi par les deux épaules et ramené de force jusqu'à la colline, jusqu'au château du Seigneur. Il est jeté sur la salle du trône devant le Seigneur, assis sur son siège énorme, l'air méprisant.
« Alors c'est donc toi, Jean le Folle ?»«
Oui, » répond Jean.
« Est-ce que c'est toi qui faisais une fête hier ?»«
Oui. »«
Et cet argent, d'où le tiens-tu ? J'aimerais le savoir. »
« Ah bien écoutez, monseigneur, c'est très simple, » dit Jean le Folle. « Moi, pour vivre, je ne travaille pas, je fais des paris et je les gagne. »«
Enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes, Jean le Folle ? Ça n'a aucun sens, ce que tu racontes. » »«
Ah mais écoutez, c'est très très simple, je fais des paris et je les gagne. » Voilà, hier j'avais parié de l'argent, j'ai gagné mon pari, du coup je me suis acheté quelques cochons de lait, quelques bouteilles, parce que bah, quand on gagne de l'argent, il faut bien partager un peu.
Enfin, je ne comprends rien, Jean le Folle. Tes paris, tu les gagnes à chaque fois ?
Sans exception, dit Jean. Le seigneur, bien qu'un peu aigri, était joueur. Et il voulait surtout montrer à ce bon à rien une petite leçon.
Eh bien, si tu gagnes tout le temps, Jean le Folle, « je vais parier, moi aussi. »«
Vous, monseigneur, mais enfin, je ne saurais quoi vous proposer. Je... »«
Eh bien si, Jean le Folle, nous allons parier. Et je vais te laisser choisir le pari. »«
Oh, monseigneur, c'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Et pourquoi jouons-nous ?»«
Nous allons parier, dit le seigneur, une pièce d'or. »« Une pièce d'or ? Oh, mais malheureux, je n'ai pas autant d'argent que ça. Non, non, parions quelque chose de plus simple. Une pièce d'argent suffira, dit Jean le Folle.
Va pour une pièce d'argent. Que veux-tu parier ?
Eh bien, réfléchit Jean le Folle, je sais, monseigneur. Je vous parie que demain matin, vous aurez un grain de beauté sur la fesse gauche.
Je vous demande pardon. C'est simplement mon pari, majesté. Je vous parie que demain matin, vous aurez un grain de beauté sur la fesse gauche, pour une pièce d'argent. Pari tenu ?
Le roi se méfie un petit peu, mais descend de son trône pour serrer la main de Jean le Folle. Le pari est scellé. Les gardes, toujours aussi brusques, escortent Jean le Folle jusqu'à la sortie, et le roi se prépare pour aller se coucher.
Laissez-moi vous dire qu'il ne dort pas bien cette nuit-là. Il se retourne dans son lit et fait des rêves étranges. Il essaie d'observer son postérieur depuis son lit, mais les draps sont épais et il fait très noir et il ne voit rien. Il transpire à grosses gouttes et passe la plus mauvaise nuit depuis des mois.
Et lorsque le soleil apparaît à l'horizon le matin suivant, le roi se lève, fait quérir un miroir en toute hâte dans sa chambre, et une fois que les gardes ont quitté les lieux, délicatement et en tremblant, il déboutonne son pantalon et inspecte son postérieur. Rien. Pas un grain de beauté. Une peau aussi lisse que la veille, une peau aussi lisse qu'une peau de bébé. Alors là, le seigneur rayonne. Tout content de pouvoir fermer son clapet à cet arrogant de Jean le Folle, le roi se rend lui-même jusqu'à sa maison. Seul et sans garde, et arrive dans la grange où Jean le Folle, nonchalant, prenait son petit déjeuner.
« Ha !
Je crois que tu me dois une pièce d'argent, Jean le Folle.
Oh, bonjour, seigneur. C'est vrai, vous n'avez pas de grain de beauté.
Eh bien, non. Ma peau est aussi belle et lisse qu'au premier jour. Donne-moi ma pièce, Jean.
Ah, bah écoutez, monseigneur, je serais ravi de vous la donner, mais... Enfin, je veux dire, pour une somme d'argent pareille, il ne me paraît pas incongru de vous demander de vérifier mon pari. Enfin, ce n'est pas que je ne fais pas confiance, mais... Un homme devient précautionneux à force.
La demande n'était pas illogique. Et après avoir jeté un coup d'œil circulaire pour vérifier qu'il n'y avait personne dans les environs, le seigneur déboutonne son pantalon et l'espace d'une seconde montre ses fesses immaculées à Jean le Folle.
Eh bien, monseigneur, je vois que vous aviez raison. Je ne vois pas la moindre trace de grain de beauté sur vos fesses. Voici une pièce d'argent.
Le roi saisit la pièce et repart triomphant chez lui. Mais le soir venu, alors que le roi s'apprêtait à aller se coucher, quelque chose attire son attention par la fenêtre. Il s'approche de la fenêtre et il entend, venant de chez Jean le Folle, du bruit à nouveau.
Il n'y a pas qu'un violon, mais il y a en plus un accordéon et un tambour. Ce n'est pas un cochon de lait qu'on grille, c'est un mouton entier. Des ragoûts, en veux-tu, en voilà. Et les femmes, les enfants, les hommes dansent tous ensemble et ça rit et ça chante chez Jean le Folle. Le roi est fou furieux. M'aurait-il berné? M'aurait-il menti? Il va voir de ce qu'il va voir. Demain matin, je débarque chez... Non, demain matin, je l'amène jusqu'ici avec mes gardes. Il verra bien de quel bois je me chauffe.
Et le roi de rage ne peut pas dormir de la nuit. Il grince des dents. Et ce n'est que quand les dernières notes du violon s'évanouissent dans les brumes du matin que le roi peut finalement s'endormir.
Jean le Folle, lui, avait passé une bonne nuit, mais réveillé en sursaut par les gardes, toujours aussi peu commode.
Jean le Folle, réveille-toi.
Bonsoir, messieurs. Bonjour.
Jean le Folle, ordre du roi, à la cour, maintenant.
Et il est traîné à nouveau jusqu'à la cour du roi, jeté sur le pavé froid devant le roi, la cerne pochée, fou de rage.
Jean le Folle, encore une fête hier soir? Ne te moquerais-tu pas un peu de moi?
Mais enfin, pas du tout, monseigneur, je ne me moque pas de vous, je n'oserais pas. Vous savez comment je fonctionne. J'ai gagné un pari, alors, avec l'argent reçu, j'ai fait une petite fête.
Tu as gagné un pari, ne te moque pas de moi, Jean le Folle. Ce pari avec moi, tu l'as perdu. Tu m'as donné une pièce d'argent, la voici la pièce d'argent.
Ah mais c'est vrai, monseigneur, le pari avec vous, je l'ai perdu. Mais j'ai fait un autre pari, avec le forgeron, et pour 10 pièces d'or encore. Je lui ai parié que, s'il venait chez moi, dans ma grange, hier matin... Il pourrait voir vos fesses.
Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou.
Ah, si j'avais un 3,50, j'aurais bientôt 2,50. Ah, si j'avais 2,50, j'aurais bientôt 3,50. Ah, si j'avais 3,50, j'aurais bientôt 4,50. Ah, si j'avais 4,50, ça serait bientôt 100 sous.
L'avare, on ne sait plus son prénom. Simplement, tout le monde l'appelle l'avare. Il ne sort pas beaucoup de chez lui. Et quand il sort, c'est toujours pour gagner de l'argent. Le poids des années et de l'aigreur l'ont rabougri, l'ont rendu sec et âcre. Et à chaque fois que l'avare met la main sur une nouvelle pièce d'or, il file chez lui en courant, se ferme à double tour et monte dans sa chambre. Sous son lit, il y a une cassette, un petit coffre qu'il ouvre avec une clé qu'il garde à son cou. Et dans ce coffre, il y a des pièces d'or, remplies presque juste en haut. Alors il y dépose la nouvelle, en la chérissant et en la couvrant de baisers. Oh, petite pièce!
Tu as voyagé de porte-monnaie sale en porte-monnaie sale, de main crasseuse en main crasseuse, de poche malhonnête en poche malhonnête. Mais maintenant tu es avec moi. Tu vas dormir avec tes sœurs et tu y seras bien, bien. Et voici un baiser et voilà que je te borde avec d'autres pièces. Tu es avec moi maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Il pose la pièce parmi ses sœurs, referme la cassette et on raconte que jamais les pièces ne ressortent. Il les amasse, mais jamais il ne les dépense. Mais un jour, l'avare se promenait au bord de la rivière et sous l'effet d'un coup de vent, il s'y voit plonger dans l'eau. Mais l'avare ne savait pas nager. Alors il se débat, il avale de l'eau, il tousse, il essaie de se débattre, mais il n'arrive pas à nager. Il se sent indubitablement et inexorablement attiré vers le fond de l'eau. Alors les badauds s'attroupent, ils essaient de venir en aide à ce pauvre vieillard, mais « Donne ta main, l'avare !» qu'on crie, « Donne ta main ! Donne ta main !» Mais l'avare se débat, mais n'en fait rien. Il essaie de nager, mais n'y arrive pas, et ses vêtements commencent à lui peser. Il est attiré, toujours plus profond, au fond de la mer. « Mais donne ta main, l'avare, ne sois pas bête, donne ta main, on va te sauver, donne ta main !» Mais l'avare n'en fait rien. Il se débat, il crie, il tousse, mais rien n'y fait. Mais passe dans la rue un homme qui le connaît bien, un de ses voisins. Il reconnaît l'homme en train de se noyer, s'approche de l'eau et dit « L'avare, prends ma main !» Et l'avare attrape la main de l'homme et l'homme le tire jusqu'à la berge. L'homme d'affaires est beau. Il est en costume, comme tous les matins, assis à la terrasse du café, comme tous les matins, et lit son journal financier, comme tous les matins. Le cheveu est bien coupé, l'œil est vif, et il a sa paille directement plongée dans les pages financières. Tout va bien, la vie est belle, la vie est normale. « Excusez-moi, monsieur, vous aurez pas une petite pièce ?» Il lève les yeux un instant de son journal et dévisage la personne qui ose le déranger dans son rituel du matin. C'est un routard, un voyageur. Le cheveu n'est pas très propre, l'œil n'est pas très vif, le chien n'est pas très bien dressé. « Excusez-moi, monsieur, vous dérangez, vous n'aurez pas une petite pièce, simplement ?» L'homme d'affaires le dévisage encore une fois, de haut en bas, décidément il n'est pas très propre, et lui parle en ces mots. « Jeune homme, des pièces, j'en ai plein. Des billets, des montagnes entières d'argent. Mais cet argent, je l'ai gagné. Il est à moi et je ne vois pas pourquoi je te le donnerais. L'argent, ça se mérite. Enfin, monsieur, vous énervez pas comme ça. Je vous donnerai simplement une petite pièce. Si vous aviez une petite pièce, vous pourrez l'avoir, mais il faut la mériter. Vous savez quoi ? Je me sens d'humeur joueuse ce matin. Nous allons faire des devinettes. » Vous connaissez les devinettes. Je vous pose une question. Si vous répondez bien, je vous donne une pièce. Mais si vous vous trompez, vous me donnez une pièce. Et après, nous ferons l'inverse. Cela vous convient ?
Ma foi, ça me convient, dit le voyageur.
Eh bien, commençons, dit l'homme d'affaires. Quelle est la chose la plus rapide du monde ?
Quelle est la chose la plus rapide du monde ? Alors le routard se concentre, il réfléchit. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Il n'en a pas vraiment une idée. Alors il essaie de penser.
La minute est écoulée, dit l'homme d'affaires. Votre réponse ?
Ma foi, je ne sais pas, dit le voyageur. Voilà une pièce.
Et il pose une pièce sur la table. La réponse, c'est la pensée, imbécile. Mais apparemment la vôtre n'est pas si vive que ça. Eh bien, allez-y. À vous de me poser une question, mais je me sens d'humeur joueuse ce matin. Si je trouve la réponse, vous me donnez une pièce, mais si je ne trouve pas la réponse, sait-on jamais, je vous en donne 10 pièces. Posez votre question.
Oui, la question, dit le voyageur. Alors la question, quelle est la chose la plus lente du monde ? Alors là, l'homme d'affaires n'en sait rien. Alors il réfléchit. Il réfléchit. La trotteuse de sa montre avance inexorablement vers la minute fatidique, mais il ne trouve pas quelque chose la plus lente du monde. Quelle sorte de question c'est, ça ? C'est ridicule, lui. Il aime la vitesse, il aime l'efficacité, lui. Il aime quand tout se passe bien, quand tout se passe vite, quand tout se passe propre. Mais la chose la plus lente, non, je... Ah, il ne va pas réussir à me berner, quand même. Et l'aiguille avance, tic-tac, tic-tac, inexorablement, jusqu'à ce qu'elle ait effectué une rotation, une révolution complète, et arrive finalement en haut, à nouveau. Monsieur, je crois que la minute est écoulée. Eh bien oui, la minute est écoulée. Tu as réussi à m'avoir. Voici 10 pièces d'or. Et il pose 10 pièces sur la table. Oh, le vagabond est bien content. Il prend les pièces et tourne les talons. Commence à s'éloigner. Et attends, fait l'homme d'affaires. Et c'est quoi la réponse à ton énigme ? Quelle est la chose la plus lente du monde ? Oh, dit le vagabond. Eh bien, je ne sais pas. Voici une pièce.
Je cherche un millionnaire. Un type chic qui voudrait bien de moi. Au moins une fois par mois, je cherche un millionnaire. Qui me dirait froidement tout ce que j'ai, c'est à toi. Je cherche un millionnaire. Pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards, je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épater quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire. Car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leurs dollars. Je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard. Bien de moi, au moins une fois par mois.
Je suis ce millionnaire qui vous dit froidement tout ce que j'ai, c'est à toi. Je suis ce millionnaire.
Vous avez tout du gigolo,
mais j'ai gagné le gros lot.
Alors, cher millionnaire, je veux bien m'occuper de vos pélos. Joli garçon, vous me plaisez beaucoup. Asseyez-vous, plus près, encore plus près, là, regardez-moi bien dans les yeux, maintenant embrassez-moi, plus fort, encore plus fort, là, un baiser à la cannibale, oh, c'est ça, ce gentil millionnaire a vraiment toutes les qualités qui peuvent me contenter avec ce millionnaire. Je suis sûr qu'on ne doit pas s'embêter.
Mes histoires sont terminées pour cette semaine. Vous pouvez retrouver les contes d'Albatros sur Facebook ou sur le site de Radio Campus Rennes où vous retrouverez les références des contes et des musiques passées dans l'émission. Vous pourrez également retrouver toutes les émissions déjà diffusées et les télécharger en podcast. Moi, je vous retrouve mardi prochain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle histoire. Bonne semaine à tous. Thank you.
Thank you.